Aujourd'hui, donc, nous accueillons le professeur François Anceau, qui a été tout d'abord maître de conférence, puis professeur à l'École normale supérieure d'informatique et de mathématiques, excusez-moi, à l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques. Puis il est entré dans l'industrie, puisqu'il a rejoint en 1984 le groupe Bull. Il est actuellement professeur ici même, puisqu'il est titulaire de la chaire des techniques fondamentales de l'informatique, et il enseigne par ailleurs à l'École polytechnique. Ses travaux portent en général sur l'architecture des microprocesseurs à la frontière entre l'informatique et la microélectronique. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc je vais vous parler de l'évolution de l'informatique. Alors je vais essayer de tracer une grande fresque qui va aller depuis les origines de ce qu'on peut appeler les origines de l'informatique, bien avant von Neumann. Puis on va parler un peu des principes qui sous-tendent la structure des machines informatiques, puis regarder l'évolution de ces machines, un peu vers quoi ça tend. Alors, pour parler de l'histoire des machines informatiques, j'ai divisé ça en trois temps. La préhistoire, l'Antiquité et l'actualité. Alors, la préhistoire de l'informatique, c'est pour essayer de voir d'où vient l'informatique. En fait, l'informatique peut être vue comme le confluent de trois courants. Un courant qui est la notion d'algorithme, c'est-à-dire comment agencer des calculs pour faire quelque chose. Et je crois que les traces que l'on peut avoir, c'est un certain Al-Khwarizmi, qui était un savant perse du 9e siècle, qui a décrit des processus de calcul. Le deuxième courant, c'est le calcul mécanique, comment arriver à faire mécaniquement des calculs, des opérations. Alors, on a la pascaline, on a la machine à multiplier de Leibniz. Et puis, le troisième courant, c'est la programmation. Comment enchaîner des choses. Alors, je crois que si on veut remonter les premières traces de programmation qu'on trouve, ce sont les carillons qui viennent du Moyen-Âge, dans lequel il y avait un rouleau qui déclenchait avec des picots des cloches. Puis ensuite, il y a eu des automates au XVIIIe siècle, et puis des métiers à tisser automatiques, les métiers à tisser de Vaucanson, Jacquard, par la suite. Alors, on trouve là le rouleau du métier à tisser de Vaucanson, la pascaline, d'ailleurs ces deux-là, vous pouvez les voir au musée des arts et métiers. Et puis, ces trois courants se sont rejoints dans la machine analytique de Babbage. Babbage, c'était un Anglais, et qui a fait une machine, qui a proposé une machine qui était une sorte de machine à calculer programmable avec des cartes perforées qu'il avait été prendre du côté de ses métiers à tisser, des calculs qu'il a pris ici, et des algorithmes qui venait de cette voie. Et d'ailleurs, une de ses amies, qui était Madame Ada Lovelace, qui a écrit les premiers programmes pour cette machine, qui d'ailleurs n'était pas réalisée, c'était un projet. On a réalisé par la suite partiellement cette machine. Comme beaucoup de précurseurs, la machine n'a pas été réalisée. Alors, ensuite, on peut passer dans une autre étape. Maintenant qu'on a vu l'émergence de la machine à calculer programmée, eh bien, on va avoir une évolution de cette machine à calculer. D'abord, une évolution technologique. On est passé à des machines mécaniques, puis électromécaniques, puis électroniques avec des tubes à vide. Et en même temps, une évolution qui va prendre en compte le binaire, c'est-à-dire le fait de tout représenter avec des 0 et des 1. Alors, des premiers éléments binaires, ça a été un additionneur qui était fait sur une planche à pain par un certain Stibitz en 1937. Vous voyez la planche à pain, l'objet. Hein. Et puis, il y a eu des calculateurs. Alors là, il y a eu un calculateur électromécanique binaire programmable qui a été fait en Allemagne en 1938. Et puis ensuite, des calculateurs qui ont été faits aux États-Unis. Vous voyez, il y en a un qui s'appelait ABC, qui a été fait par Atanasoff, et c'est celui-là, en 1939. Hein. Et toutes ces machines avaient pour but de faire des calculs, c'est-à-dire essentiellement de calculer des tables numériques, à but civil ou à but militaire, parce que vous voyez, les dates nous rapprochent effectivement de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant ce temps-là, il y a eu la théorie du calcul qui a été faite par Turing en 1936. Et puis, la guerre est arrivée, ces machines ont été utilisées pendant la guerre. Et après la guerre, il y a eu une très grosse machine à calculer programmable qui s'appelait l'ENIAC, qui a été réalisée par Eckert et Mauchy aux États-Unis en 1947. Et là-dessus est venu le fameux von Neumann, qui en 1945 a dit « Le programme qui était avant sur des rubans ou sur des cartes, eh bien, on peut aussi le mettre dans la même mémoire que les données. » Ça, ça a été l'invention, entre guillemets, de von Neumann. Et à partir de ça, on a cherché à faire des machines. Et la première machine qui a été réalisée suivant ce principe, eh bien, a été réalisée par Turing, et ça s'appelle l'Automatic Computing Engine, en 1950, par Turing, alors que von Neumann, sa machine l'EDVAC a été réalisée plus tard, et la machine faite par Turing avait même la possibilité que ce programme qui était en exécution, eh bien ce programme, la machine pouvait se le changer dynamiquement en cours d'exécution. Donc il a été un petit peu plus long. Alors ensuite, eh bien on va passer au temps moderne, c'est-à-dire que on a tous les ingrédients pour faire des ordinateurs. Donc maintenant, il va y avoir une évolution technologique, parce que l'inconvénient de ces ordinateurs à tube, c'est qu'ils avaient des durées de vie entre pannes d'à peu près 30 minutes. Au bout de tous les 30 minutes, il y avait un tube qui tombait en panne. L'ENIAC, c'était quand même un engin où il y avait 18 800 tubes hein, pour un objet qui était capable de faire... suivant les auteurs, entre 40 opérations secondes et 150 opérations secondes. Hein. C'était des machines qui n'étaient pas très fiables. Et grâce à l'invention des transistors, il a fallu attendre les années 60 pour qu'on invente en fait les transistors à silicium. Et on a commencé à fabriquer des ordinateurs à transistors. Hein. Voilà par exemple des exemples de cartes d'ordinateurs à transistor. Alors là, les machines sont devenues bien plus fiables. Ça pouvait tourner une semaine sans problème. Hein. Et puis, on a amélioré les mémoires. Il y avait un gros problème de mémoire. On a inventé la mémoire à tort. Et l'ordinateur est devenu quelque chose, début des années 60, l'ordinateur est devenu quelque chose d'utilisable. Mais ça restait toujours une machine à faire des calculs. Et progressivement, au cours des années 60, il y a eu un très grand changement, c'est-à-dire que l'ordinateur est passé du statut de machine à faire des calculs à machine à faire plein de choses, à manipuler de l'information. Et ça, je crois que ça a été le grand changement. Et quelque chose qui a marqué ce changement, ça a été l'occurrence des mini-ordinateurs. Aux États-Unis, c'est venu de travaux qui ont été faits au MIT, d'une machine qui s'appelait le Link, en 62. Et là, on a commencé à créer les mini-ordinateurs, c'est-à-dire des ordinateurs tout petits, beaucoup plus petits, qui pouvaient être utilisés dans des labos et qui ont commencé à être utilisés pour faire un tas de choses. Et puis, il y a eu l'invention des circuits intégrés en 58, et les ordinateurs ont commencé à utiliser des circuits intégrés à partir, j'ai mis environ 1965, donc on a vu apparaître les grosses machines dans ces années-là, les IBM 360 et autres machines de ce genre. Et puis, la révolution, c'est-à-dire que ce que j'appelle la révolution, c'est-à-dire que ces circuits intégrés, alors qu'est-ce que c'est qu'un circuit intégré? C'est le fait de réunir plusieurs transistors sur une même pastille. et de les faire travailler ensemble. Au lieu d'avoir des transistors séparés, comme on voyait sur la photographie précédente, et puis interconnectés sur une carte, maintenant ces transistors sont sur une même puce de silicium et sont interconnectés sur la puce de silicium. Et en 1970, début des années 70, on a réussi à mettre un ordinateur, une unité centrale d'ordinateur sur une seule puce. Alors ça paraît une évolution technique. En fait, c'est une évolution quantitative qui est devenue qualitative. C'est-à-dire qu'on a eu maintenant un composant informatique, un composant intelligent, qui a permis de distribuer l'intelligence. Et ça a été vraiment... Alors là, on a la microphotographie de l'Intel 4004, qui a été le premier microprocesseur commercial, premier microprocesseur mis sur le marché. En fait, il y en avait d'autres, mais qui n'étaient pas commerciaux, qui étaient des microprocesseurs qui ont été utilisés pour des applications privées. Là, ça a été le premier qu'on pouvait acheter pour faire n'importe quoi. Et ça a été littéralement une explosion. Alors, à partir de ce moment-là, il y a eu une évolution fantastique. Les microprocesseurs ont commencé à évoluer en termes de complexité. Et cette évolution, eh bien, se prolonge jusqu'à maintenant. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si on trace ça dans une échelle semi-logarithmique, eh bien, on a une droite. Et j'ai pris différents microprocesseurs, comme ça, et vous voyez qu'ils s'alignent remarquablement bien, hein, depuis le 4004 jusqu'à des micros tout à fait modernes. Et ça veut dire que cette évolution est exponentielle. Et elle évolue de manière exponentielle et elle ne fléchit pas. Ça, c'est intéressant de remarquer ça. On est en l'an 2000 et ça ne fléchit pas. Ça continue à croître. Vous voyez, on est passé de cet Intel 4004 avait 2800 transistors, il faisait 60 000 opérations secondes. Hein. Il exécutait 60 000 instructions par seconde. Et bien maintenant, on arrive à des machines qui font plusieurs dizaines de millions de transistors. Hein, et on va voir juste la diapo d'après qui représente l'évolution de la performance, qui sont capables d'exécuter près d'un milliard d'opérations d'instructions par seconde. Et cette évolution continue depuis 30 ans. Et je crois que c'est une des plus formidables évolutions techniques que l'homme ait vécue. Hein, je connais peu de domaines dans lesquels il y a eu une évolution en 30 ans exponentielle, soutenue, et qui est passée à des échelles pareilles, hein, plusieurs millions de fois en termes de complexité et de performance. Alors, il faut voir que cette évolution, surtout en performance, c'est ça qui intéresse le plus les gens, eh bien, cette évolution est à peu près moitié due à la technologie, l'évolution de la technologie des semi-conducteurs s'améliore, la technologie des circuits intégrés s'améliore, ces dessins, on va les faire de plus en plus fins, et on va mettre de plus en plus de transistors, et ça va tourner de plus en plus vite. Hein. Et puis, d'autre part, eh bien, à l'architecture même des microprocesseurs qui va évoluer. Et cette architecture des microprocesseurs va, dans un premier temps, reprendre tout ce qui avait été inventé pour les ordinateurs précédents. Et puis, à partir de 93-95, après avoir récupéré tout le passé de l'architecture des ordinateurs classiques, eh bien, s'est mis à innover et à sortir des structures de machines qui n'existaient pas auparavant. Alors, on appelle ça la loi de Moore, cette évolution, hein, mais ça, c'est également exponentiel en termes de performance. Alors, l'évolution technologique, donc ce qui nous donne la dimension des motifs minimaux, des petits traits qu'on aperçoit ici, hein, eh bien, ça n'a fait que diminuer depuis 40 ans qu'il y a des circuits intégrés. Et vous voyez cette évolution qui était à peu près continue jusque vers 95, entre 65 et 95, ça évoluait de manière à peu près linéaire en smilogue. Hein. Eh bien, maintenant, ça s'accélère. Non seulement ce processus ne faiblit pas, mais il s'accélère actuellement. Vous voyez l'accélération. Et on commence à se poser des problèmes de voir que l'on va arriver, à force de diminuer les dimensions des motifs minimaux actuellement utilisés sont de 0,18 microns. C'est-à-dire c'est plus petit que la longueur d'onde de la lumière. Hein. Et vous voyez, on est à peu près à ce niveau-là. On prévoit 0,12 microns en 2002 ou quelque chose comme ça. Hein. Et ça va continuer. Alors, on ne sait pas très bien si ça va partir par là ou par là, mais on voit que quand ça va atteindre 0,03 microns, et ça, on va l'atteindre avant 2010, hein, ou autour de 2010, à ce moment-là, va apparaître des effets quantiques qui vont commencer à perturber le fonctionnement des transistors, qui sont des nombreux transistors qui sont utilisés là-dedans. Alors, vous avez des millions de transistors. À cette époque-là, il y aura des centaines de millions de transistors pour des machines qui tourneront à des dizaines de gigahertz de fréquence d'horloge. Et là, ben, on va arriver aux effets quantiques et on va se poser des questions. Mais bon, il ne faut pas trop paniquer parce que dans les laboratoires, il existe déjà des transistors qui fonctionnent en exploitant ces effets quantiques. Alors, les ordinateurs ont évolué dans le temps et je crois qu'il est intéressant dès le départ de mentionner deux grands types d'ordinateurs. Parce que quand on parle de microprocesseurs, on a tendance à parler, à voir la boîte qu'on trouve dans les supermarchés avec l'écran, la boîte, le clavier et tout ça. Hein. Les ordinateurs personnels qui sont les plus importants et les plus nombreux, les ordinateurs. Il y a aussi les ordinateurs serveurs, ceux auxquels on se connecte via Internet pour avoir de l'information. Il y a les ordinateurs de contrôle de processus, ceux qui font tourner des raffineries, des usines, des choses comme ça. Il y a les superordinateurs, ceux qui sont chargés de faire des gros calculs pour simuler des phénomènes très complexes. Je ne sais pas, par exemple, Michelin utilise des superordinateurs pour simuler le comportement des pneus sur la route. Eh bien, il y a à côté de ça ce que j'appelle des ordinateurs cachés, c'est-à-dire des ordinateurs qui sont des composants électroniques ordinateurs, mais qui ne se présentent pas comme tels. Et il y en a partout. Il y en a partout, par exemple, dans une automobile, vous en avez trois ou quatre, il y en a un pour faire un ou plusieurs pour faire le contrôle moteur, ainsi de suite, il y en a dans les trains, dans les bateaux, dans les avions, dans les fusées, dans les communications, dans un téléphone portable, il y en a un, dans un GPS, il y en a un. J'ai même vu la description technique d'une espèce de poupée jouet qui est vendue dans les pays anglo-saxons. Et ben, il y a deux microprocesseurs à l'intérieur pour faire marcher la poupée, hein, pour qu'elle comprenne ce qu'on lui raconte et qu'elle fasse des gestes. Hein. Dans l'électroménager, il y en a. Dans une machine à laver, vous avez des microprocesseurs. Dans l'horlogerie, une montre un peu sophistiquée, je ne parle pas des montres à aiguilles, mais des montres numériques un peu sophistiquées, c'est un petit ordinateur. Vous en avez partout. Il y en a énormément. Et ça a un effet important sur la société parce que ça change, si vous voulez, notre environnement. Et ça fait que notre environnement devient intelligent. Donc il faut voir que la plus grande incidence de l'informatique sur la société, ce n'est pas tellement les ordinateurs visibles, c'est surtout les ordinateurs cachés. Alors, je peux vous montrer un type d'ordinateur de ce type. Voilà un circuit qui est en fait un circuit qui est destiné à contrôler un disque dans un micro, dans un ordinateur personnel. C'est fait par la société ST, vous avez peut-être entendu parler, à Grenoble, hein, société européenne. Et vous voyez, il y a un microprocesseur qui est ici, il y a de la mémoire là, puis il y a un tas de circuiterie qui fait les choses spécifiques. Et tout ça se présente comme un contrôleur de disque et non pas comme un ordinateur. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Ben, un ordinateur. Oui. Donc c'est une technique, ça devient une technique d'ingénieur pour fabriquer des circuits complexes. Beaucoup de circuits complexes, c'est en fait des ordinateurs. Mais ça ne le dit pas. Alors, on se rend compte que l'évolution de l'informatique demande de plus en plus de puissance de calcul. D'ailleurs, c'est le grand slogan, vous achetez un ordinateur à 500 mégas, on vous fait la pub bientôt pour celui à 1 méga, puis quand vous achetez 1 giga, puis celui d'un giga, on vous en vendra un qui fera 2 gigas, et puis après 2 gigas, ça sera 3 gigas, puis 10 gigas, et il n'y a pas de fin. Alors, ce qu'il y a, c'est que on peut se dire, mais enfin, ça va s'arrêter quand même, à force de prendre de telles puissances de calcul, ça va finir par s'arrêter. Eh bien non, on ne distingue pas de limite à court terme. N'importe quelle application peut être poussée aussi loin qu'on veut, ne serait-ce qu'un traitement de texte. On a commencé à faire des traitements de texte tout simples, puis après ils ont commencé à faire apparaître un écran qui était la copie conforme de ce qu'on allait avoir sur le papier, puis après on a mis des correcteurs orthographiques en ligne, puis on va mettre des correcteurs grammaticaux en ligne, puis il faut essayer de comprendre le sens de ce que vous allez frapper pour essayer de faire des trucs, et puis ainsi on va mettre la parole de façon à ce que vous puissiez dicter des choses, puis enfin on est loin encore de pouvoir s'adresser à son ordinateur personnel en lui disant, écoutez, faites-moi une lettre pour un tel, vous tournez ça à peu près comme ça, puis, hein, eh bien, on en est loin. Et si vous voulez faire ça, il faut encore mettre beaucoup de transistors. Hein. Alors, les besoins sont loin d'être satisfaits. C'est ça, ce que je veux dire, c'est que les besoins, c'est ça. Hein. On veut des choses qui sont de nature humaine, et donc on est rentré en plein, si vous voulez, dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, non pas présentée comme l'intelligence artificielle, mais comme la réutilisation des technologies de l'intelligence artificielle dans l'informatique traditionnelle, hein, informatique classique. Hein. À partir du moment où on veut faire un correcteur grammatical sur un traitement de texte, ça va utiliser de l'intelligence artificielle. Et la présence des ordinateurs cachés, vous voyez, transforme notre relation vis-à-vis des objets. C'est évident qu'on n'a pas la même relation avec un objet complexe qu'on avait avec un objet simple. D'abord parce qu'on finit par plus savoir comment ça marche. Je suis persuadé que, moi le premier, je ne sais pas très bien tout ce qu'est capable de faire mon téléphone portable. J'en découvre tous les jours. Hein. Et encore, il y a plein de trucs qu'il ne me dit pas. Hein. On arrive à des appareils qui dépassent un petit peu notre compréhension et on ne sait pas. Ils transforment les métiers. Un capitaine de navire n'a plus à savoir faire le point, il prend son GPS et il a le point. Hein. Donc, si vous voulez, ces machines ont capturé une partie des connaissances et du savoir-faire. Et ils deviennent indispensables. Si vous retirez le GPS au commandant de bateau, d'ici quelques temps, il ne saura plus faire le point qu'un sextant. Hein? Donc le GPS lui deviendra indispensable. Hein? Et vous voyez également, ils permettent l'interconnexion généralisée des individus et des machines. Je ne vais pas parler des réseaux parce que je pense que vous en entendez beaucoup parler par ailleurs, mais c'est fondamental. Alors, il y a un autre effet qui est l'effet de l'absorption des gammes d'ordinateurs. C'est-à-dire, avant, vous voyez, on parlait de gammes d'ordinateurs, on parlait de mini-ordinateurs, d'ordinateurs, de centres de calcul, tout ça. Eh bien, on s'aperçoit qu'avec l'évolution des microprocesseurs, ces microprocesseurs absorbent ces différentes gammes. On ne parle plus des mini-ordinateurs. Ils ont été complètement absorbés par les micros. Les stations de travail sont en train d'être absorbées par les microprocesseurs monolithiques. Les serveurs, c'est-à-dire les ordinateurs de centre de calcul, sont en train d'être absorbés, et on peut prévoir que dans la prochaine décade, c'est les super-ordinateurs qui vont être absorbés par les microprocesseurs. Alors pourquoi cette augmentation de puissance de calcul comme ça dans les ordinateurs personnels, dans les PC, dans les Mac qu'on trouve dans le commerce? Eh bien, il faut se douter, quel est l'élément qui tire le plus l'évolution des PC? Eh bien, c'est parce que ces engins servent à faire des jeux. Et en fait, pour faire des jeux vidéo, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut beaucoup de calcul. Hein, parce qu'il faut beaucoup de jeux, c'est de la simulation en temps réel. Quand j'ai acheté un petit CD de jeux de rallye, hein, il faut simuler l'automobile en train de sauter, de cabosser, de courir sur une route. C'est une simulation mécanique en temps réel et relativement complexe. Si vous regardez les simulateurs d'avion, il faut vous simuler le vol d'un avion complètement. Hein. Et puis, il faut l'afficher. Il faut afficher l'écran avec le paysage de l'automobile ou de l'avion qui bouge et à la bonne vitesse. Hein, et la route, elle bouge vite. Hein. Eh bien, quand vous regardez tout ça, vous avez tous les ingrédients d'un super ordinateur. Alors l'idée, c'est on fait des machines pour des jeux, puis après on dit aux gens, bah, si vous voulez les réutiliser pour calculer l'évolution des pneumatiques, vous avez toujours le droit, vous avez les moyens. Hein. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le moteur n'est pas un moteur très intellectuel, c'est que si on arrive à capturer les jeux, on vendra beaucoup d'ordinateurs, de microprocesseurs. Voilà. Alors, en plus, ces engins, alors au terme de la puce, ont la propriété que leur prix baisse avec le temps. Il y a peu de choses hein, dans le monde dont le prix baisse avec le temps. Eh bien, on s'aperçoit que ces objets-là, ces puces, commencent par être vendus à peu près 1 000 dollars, on peut mettre 10 000 euros, hein, et puis, avec le temps, ben, le prix baisse jusqu'à 100 ou 10 euros, ça dépend, 10 dollars ou 100 dollars, ça dépend un peu, là, le prix du papier, de la boîte et des choses de ce genre-là. Hein. Puis c'est remplacé par un autre, et puis c'est ensuite remplacé par un autre, et on s'aperçoit qu'à un moment donné, on a une échelle de valeur avec différents micros qui ont différents coûts et différentes performances, mais cette échelle varie. Et puis un peu plus tard, ben celui-là va disparaître, ça va être celui-là qui va prendre le relais, va y en avoir un nouveau qui va arriver, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il est très difficile de dire, bien, c'est toujours plutôt perturbant de dire ce micro que j'ai acheté très cher, cet ordinateur personnel que j'ai acheté très cher, car très puissant, bien, va devenir quelque chose de tout à fait commun, dépassé, vieillot, dans quelques années. Hein. Et c'est dû à ce genre d'évolution. Hein. Et le processeur interne qui valait très cher, eh bien, vaudra pratiquement plus rien quelques années après. Hein. Et ça, c'est un phénomène qui est très déroutant, y compris pour les ingénieurs qui conçoivent ces machines. Alors, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans, vous voyez. Dans un ordinateur, vous avez en général une unité de traitement, c'est-à-dire qui manipule l'information. Vous avez une mémoire, c'est-à-dire qui stocke l'information. Vous avez des périphéries, des organes périphériques. Alors là, j'ai représenté un disque, l'écran clavier, la souris, l'imprimante, et puis les moyens pour faire de la communication. Donc ça, c'est la structure grossière d'un ordinateur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment fonctionne l'unité de traitement. Alors, l'unité de traitement, c'est très intéressant de voir ça parce que ça contient des organes de mémorisation, c'est-à-dire des organes qui sont capables de contenir de l'information, et ça contient un opérateur, c'est-à-dire des organes qui sont capables de transformer l'information. Et ça fonctionne d'une manière cyclique, c'est-à-dire on prend des données dans les organes de mémorisation, on les donne à l'opérateur et on range les résultats dans l'organe de mémorisation, on reprend d'autres informations et on tourne comme ça. Hein. Sachant que l'idée, c'est que l'opérateur qui est très rapide, il est capable de faire une opération de l'ordre en une nanoseconde à peu près actuellement, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 secondes, hein, un milliardième de seconde, eh bien, il est réutilisé à toutes les sauces de façon à ce qu'on utilise le moins possible d'opérateurs parce qu'on va cycler dessus. Et alors, ce que l'on fait dans un cycle, c'est donné par des instructions, c'est-à-dire un mot dont le profil détermine eh bien, qu'est-ce qu'on prend comme données, qu'est-ce qu'on fait comme opération, où on range les résultats. C'est donné dans une instruction. Non. Et puis, l'idée de von Neumann, ben, ça a été de dire les instructions, ben, on les range aussi dans les organes de mémorisation. Donc voilà la structure même de l'ordinateur. Alors, les éléments de mémorisation, on a un petit problème technologique qui fait que plus un élément de mémorisation est rapide, plus il est petit, plus il est gros, plus il est lent. Donc on se retrouve à faire une espèce de pile d'éléments de mémorisation avec différents niveaux d'éléments de mémorisation qui sont de plus en plus gros, mais aussi de plus en plus lents. Et toute l'astuce, ça va être de faire comme si on avait des éléments de mémorisation très grands et très rapides. Alors ça marche un peu comme un bureau. Vous pouvez imaginer que vous avez une armoire avec plein d'informations dedans et un bureau où l'information est très accessible. Alors, comment vous allez faire pour travailler ? Eh bien, vous allez prendre ce dont vous avez besoin dans l'armoire, vous allez la poser sur le bureau, vous allez travailler avec ce que vous avez besoin sur le bureau, et puis quand vous n'en avez plus besoin, vous le mettrez dans l'armoire. Eh bien là, on fait pareil, c'est-à-dire qu'on a une mémoire rapide dans laquelle on met les informations pertinentes, on va les chercher dans une mémoire plus grosse et plus lente, on met l'information pertinente dans les mémoires rapides, on travaille dessus, quand on n'en a plus besoin, on la remet dans la mémoire lente, et quand on a besoin de nouvelles, on la fait remonter dans la mémoire rapide. C'est le principe même de ce qu'on appelle une hiérarchie de mémoire. Alors, on va regarder différentes familles d'ordinateurs. Et on s'aperçoit qu'il y a eu un grand changement dans la structure des ordinateurs. Vous avez, jusqu'au début des années 80, on a fabriqué des ordinateurs qui avaient des instructions très complexes. Je vous ai expliqué ce que c'était qu'une instruction, mais qui avaient des instructions très complexes. Ça allait jusqu'à dire voilà un caractère, voilà une table, dites-moi où ce caractère se trouve dans la table et où il se trouve. Des machines de ce genre. Et les instructions lisaient leurs opérandes dans la mémoire centrale de l'ordinateur et rangeaient leurs résultats dans la mémoire centrale de l'ordinateur. Ça a été les processeurs qu'on a trouvés jusqu'au début des années 80. On en trouve encore, puisque le processeur du PC est de ce type. Et on appelle ça des CISC. Alors, je vais vous montrer un exemple de CISC. Voilà le 68020, qui est le microprocesseur qui a servi à faire les premiers Macintosh. C'était un microprocesseur tout à fait standard des années 80. Vous voyez, et il avait celui-là, faisait 180 000 transistors, 6 millions d'instructions par seconde. C'était une machine tout à fait respectable à cette époque, une machine 32 bits. Et puis, au cours des années 80, on s'est dit, pourquoi mettre des instructions très complexes qui servent finalement très peu ? Parce que quand on arrivait à utiliser une de ces instructions complexes, on était content. Donc c'était vraiment très très peu utilisé. Alors on s'est mis à dire on ne va garder que les instructions simples et on a fait des machines qu'on appelle les RISC, Reducted Instruction Set, qui n'ont conservé que des instructions simples et se sont mis à travailler sur des opérandes en registre, c'est-à-dire dans le processeur lui-même, c'est-à-dire on allait dans la mémoire est devenue une sorte de périphérie dans ces machines, on allait accéder à la mémoire que très rarement, donc il y avait beaucoup plus de registres. Et ça, c'est le type des processeurs même des années 80. Évidemment, comme les instructions sont plus simples, les programmes sont plus longs, c'est devenu le cas de la plupart des processeurs qui ont été inventés dans les années, fin des années 80, début des années 90, le PowerPC qui équipe maintenant les nouveaux Mac est de ce type. Et ça, c'est une machine MIPS qui a été utilisée dans pas mal de jeux. Et ça, c'est le MIPS R4000 que l'on a, qui était une machine qui date de 92, les premiers exemples, qui faisait 70 millions d'instructions secondes, qui faisait 1 100 000 de transistors, donc il y a 1 100 000 transistors là-dedans, et qui est un risque assez typique de ces machines. Alors, je dois mentionner un autre type, c'est-à-dire des processeurs un peu particuliers. Il y a deux familles de processeurs qui sont des dérivés des CISC, des processeurs à jeu d'instructions complexes. Il y a d'abord des processeurs qu'on appelle des processeurs langage, c'est-à-dire des processeurs dont la structure, le jeu d'instructions est adapté à l'exécution directe de langage informatique évolué. Alors ça, c'est quelque chose qui date de longtemps, puisque pendant les années 60, il y avait des machines célèbres qui étaient des grosses machines de centre de calcul qui exécutaient Algol directement. Puis il y a des résurgences de temps en temps, il y a eu des résurgences dans début des années 80 pour faire des machines Pascal, puis il y a une résurgence actuelle pour faire des machines Java. En particulier, il y a une machine qui s'appelle Pico Java, qui est faite par Sun, et qui est une machine langage, et qui est une résurgence de cette famille de machines, ça ressort de temps en temps. Mais ça, c'est des machines minoritaires. Et puis d'autres machines, qui s'appellent les machines système, c'est-à-dire des machines dans lesquelles le jeu d'instructions est, lui, adapté à l'exécution de fonctions système, du système d'exploitation, c'est-à-dire du jeu du programme qui gère le fonctionnement de la machine elle-même. Alors ça vient, l'histoire de ces machines-là vient d'un projet de système qu'il y a eu dans une université américaine qui s'appelle le MIT dans la fin des années 60, qui était le projet Multics, et de là a dérivé un certain nombre de machines, et au début des années 70, c'était vraiment le type de machine qui était très à la mode, je dirais. Puis il y a eu des résurgences de temps en temps, et en particulier il y en a eu une en 83, ça a été le 286 qui a donné le 386, et tous les PC actuels sont équipés de processeurs qui sont en fait des machines système. Alors je vais vous montrer une machine système très particulière, c'est une machine système qui est en fait le processeur d'un ordinateur français qui est le Bull DPS 7000. Ça, cette machine-là, s'appelle l'Origa 2, c'était le nom de code du projet. Ça contient 4 700 000 transistors. C'est le processeur, ça remplace ses armoires. Vous voyez, ça, c'était une machine des DPS 7 traditionnels d'avant le fait de le mettre sur une puce. Et ça a été mis sur une puce, et ça a été fait au Claye-sous-Bois, à 40 km d'ici. Et ça fonctionne, on peut en acheter. C'est donc un processeur système, c'est une machine système qu'est le DPS-7. Alors, on a... Donc il y a ça a continué, puisque ça c'est une autre version, c'est le DPS 8 8000, qui est également une machine de bulle. Ça, le projet s'appelle Olympus, et contient, lui, 24 millions de transistors en technologie 0,18 microns, et ça a été fait aussi par bulle entre les Claye-sous-Bois et les États-Unis. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu au niveau du silicium. Les gros microprocesseurs actuels, vous voyez, sont aussi complexes qu'un pays de 1000 km, un pays carré de 1000 km de côté. Vous voyez, les dessiner, puisqu'il va falloir dessiner ce circuit, c'est comme si on voulait dessiner la carte routière d'un pays de ce genre, avec des détails de 10 mètres. Vous imaginez, si vous faites une erreur là-dedans, ça ne marche plus. Vous imaginez le travail de dessin pour arriver à dessiner ces trucs-là. C'est absolument fantastique. Donc, si on revient... là, je me suis trompé. Donc, 25. Par contre, c'est celui-là. Voilà, donc vous imaginez le travail de dessin d'un truc comme ça. Alors, la structure interne de ces machines se décompose, alors pas celle-là parce que c'est trop compliqué, mais les plus simples, se décompose en deux modules. Et le mieux pour les voir, c'est de revenir sur le 68020. Et vous voyez, dans cette structure-là, deux morceaux assez séparés. On a un morceau ici qu'on appelle le chemin de données, qui en fait représente la manipulation des données, tout ce qu'il faut pour manipuler les données, les opérateurs, les registres, tout ça. Et puis tout le reste ici, c'est ce qu'on appelle le séquenceur, c'est-à-dire ça anime comme un automate le chemin de données pour que le chemin de données puisse faire les opérations qu'on veut. Et c'est un peu la tête et les jambes. Et cette décomposition est quelque chose de fondamental dans la conception d'un tel micro. Bon, d'un autre côté, le fait de réaliser un micro, de mettre sur une puce des circuits électroniques au lieu de les avoir sur une carte, eh bien, fait qu'on va avoir la vitesse de cette électronique qui va se trouver multipliée par 100 et la densité par 1000. On passe du millimètre au micron, on passe de la microseconde à la nanoseconde, et c'est pour ça qu'on a intérêt à mettre un tas de choses sur un circuit intégré. Par contre, ce qui coûte très cher, c'est de rentrer et de sortir du circuit intégré. C'est rentrer et sortir d'un circuit intégré, c'est aussi cher que de passer de la carte d'électronique là à un moteur ou à de l'électromécanique. C'est à peu près le même coût. Et c'est pour cette raison qu'on a intérêt à mettre le plus de choses possibles pour ne pas avoir à entrer et sortir. C'est ça, ça explique le fait qu'on fait des circuits intégrés de plus en plus gros. Parce que ça coûte trop cher de rentrer et de sortir. Alors, un des gros éléments, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible. Je vous ai dit qu'il y avait une espèce de course à la vitesse. Et donc, on va essayer d'aller le plus vite possible. Là, vous avez l'exemple du dessin d'un circuit intégré. Vous voyez comment on dessine un circuit intégré, comment vous voyez les différents constituants de ce circuit intégré qui sont dessinés sur un écran d'ordinateur. Et puis, on dessine ça. Et c'est à l'aide de ce dessin qu'on va fabriquer le circuit intégré. Et donc, le concepteur ne voit que ce dessin, réfléchit sur ce dessin, le simule, le fait fonctionner. Et après, on va fabriquer le circuit intégré. C'est deux choses complètement séparées. C'est comme l'architecte et puis le maçon. Donc, ce qui est complexe dans un circuit intégré, c'est surtout de le dessiner. Vous allez me dire, de le fabriquer, ce n'est pas facile. Mais c'est un autre métier. Donc, on va chercher à accélérer l'exécution, je disais. Et alors, comment va-t-on faire pour faire tourner ces processeurs de plus en plus vite? Eh bien, on peut chercher à utiliser des technologies de plus en plus rapides, mais enfin, il y a une limite. Une autre solution, ça consiste à dire on va introduire du parallélisme dans l'exécution. C'est-à-dire qu'on va essayer d'exécuter plusieurs instructions à la fois. Ah, c'est pas mal d'exécuter plusieurs instructions à la fois, si ce n'est que comme les instructions sont généralement l'une derrière l'autre, si on commence à les exécuter l'une ensemble, et qu'on a besoin dans une instruction du résultat produit par une autre, c'est gênant si on veut les faire en même temps. On risque de se prendre les pieds dans le tapis. Donc on va avoir ce qu'on appelle des problèmes de dépendance, c'est-à-dire des problèmes dans lesquels une instruction a besoin du résultat produit par une autre instruction qui n'est pas encore exécutée, qui devrait l'être mais qui ne l'est pas. Parce qu'on veut se comporter exactement comme si les instructions étaient séquentielles. On ne veut rien changer au programme, parce que contrairement à ce qu'on pense, les programmes c'est ce qui change le moins facilement. Et on veut pouvoir fabriquer un autre matériel qui exécute plus rapidement les mêmes programmes. C'est-à-dire, vous voulez faire tourner vos vieux programmes pour PC sur un PC tout à fait moderne, qui, lui, va exécuter plusieurs instructions à la fois. Et il avait l'habitude, faut que ça marche exactement pareil que si on les exécutait l'une derrière l'autre. On va aussi chercher à réduire les temps d'accès à la mémoire avec des techniques de hiérarchie mémoire dont je vous ai parlé, et puis en essayant de réduire le nombre d'accès à la mémoire. Alors, une des idées qui a été utilisée, qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle le pipeline. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'exécuter les instructions les unes derrière les autres, un peu comme dans une chaîne de montage automobile. C'est-à-dire que la première instruction, on va rentrer une instruction, on va faire la première étape dessus, puis la deuxième étape, et pendant qu'on fait la deuxième étape, on rentre l'instruction suivante, qui fait la première étape pendant que la deuxième instruction fait la deuxième étape. Et puis, pendant que l'instruction fera sa troisième étape, on fera la deuxième, ainsi de suite. J'ai fait une petite animation. Vous voyez, la première instruction rentre, on l'exécute pendant qu'elle est... Quand elle se prépare à faire sa deuxième étape, on rentre une deuxième instruction. La première instruction est ici, elle va faire sa troisième étape dans son exécution. Pendant ce temps-là, la deuxième instruction fait sa deuxième étape et une troisième instruction rentre dans le système. et ainsi de suite. C'est exactement la même chose, là je saute, c'est exactement la même chose que dans une chaîne de fabrication d'automobiles. Vous avez beaucoup d'automobiles en fabrication, hein, et vous voyez qu'il sort à chaque étape, à chaque fois que la chaîne avance d'un cran, il sort une auto. Mais par contre, pour fabriquer l'auto, il faut pas mal d'étapes, hein, et on fabrique plusieurs automobiles à la fois. Et bien là, on exécute plusieurs instructions à la fois avec cette technique-là. Alors, évidemment, ça pose des problèmes parce que vous pouvez avoir que l'instruction qui rentre dans le système ait besoin d'un résultat, d'une instruction qui est encore dans le système, qui n'est pas terminée, qui n'est pas sortie. Alors, ça ne se produit pas avec les autos, par contre, ça se produit avec les instructions. Donc là, je crois, je vois le temps avancer. Je vais peut-être sauter ça. On appelle ces chaînes d'exécution des structures pipeline, hein, et on voit qu'on peut mettre plusieurs structures pipeline à la fois. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des instructions dans la mémoire, on les lit, puis après on les distribue sur plusieurs chaînes de montage. C'est un peu comme si vous disiez, pour faire plus rapidement mes automobiles, je vais mettre plusieurs usines. Hein, et puis, au lieu d'en avoir une seule, je vais mettre plusieurs usines. Et bien là, pour exécuter plus rapidement mes instructions, je vais mettre plusieurs pipelines, on appelle ça des pipelines, et je vais distribuer les instructions, soit d'après leur nature, soit simplement les distribuer comme ça, si les différents pipelines sont capables de faire tous la même chose. Voilà, de ça, c'est un microprocesseur qui s'appelle l'Alpha, qui a été fait par Digital Equipment, et maintenant Compaq, et qui fonctionne suivant ce principe-là, avec deux pipelines de ce type. Hein, et donc, l'Alpha, 1 068 000 transistors, ça a commencé en 92, et on en trouve tout de nouveau, il tourne assez rapidement. Enfin, c'est un microprocesseur qui est très, très aimé des universités. Voilà. Alors, là-dessus, on a inventé d'autres techniques, en particulier Intel a inventé une technique qui est un peu différente, qui consiste à dire j'ai des instructions en cours d'exécution. C'est un peu comme si, au lieu de fabriquer mes autos sur une chaîne de montage, j'avais un grand hall, et puis je mets mes autos à différents endroits du hall, et les ouvriers se déplacent avec des petites voitures. Par exemple, celui qui doit monter les roues se déplace avec une petite voiture avec des roues. Puis quand il trouve une voiture qui a les essieux et pas de roues, ben il met les roues. Hein, et bien là, c'est pareil. Alors, quel que soit l'emplacement de la voiture dans le hall, si tous les ouvriers font ça, ben, on finira par fabriquer des autos. Hein. Et bien là, c'est pareil. Il y a des petits opérateurs. L'un dit, tiens, ben, je vais chercher une instruction à qui mentent ces opérandes. Je vais chercher, pof, puis je lui donne ces opérandes. Une autre dit, tiens, je vais chercher les opérations d'addition qui ont leurs opérandes. Alors, il trouve une instruction qui a ses opérandes, qui a besoin de faire une addition, pouf, il fait l'addition et met le résultat, et ainsi de suite. Donc, l'exécution des instructions est complètement faite dans le désordre. Hein. C'est comme ça que marche le Pentium Pro et le Pentium 2, Pentium 3, voilà le P6 ou Pentium Pro, qui est la même machine que le Pentium 2, Pentium 3. Le Pentium 4 a l'air différent, mais là, je n'ai pas d'informations. Alors, on n'en est pas resté là, et la dernière évolution, c'est ce qu'on appelle le VLIF, Very Long Instruction Word. Ça consiste à grouper des instructions dans un mot très long. On fait un mot très long, de l'ordre de 128 bits, dans lequel on met plusieurs instructions à la fois, parce que dans la technique précédente, le problème, c'était qu'on lisait quand même les instructions les unes après les autres, puis on les distribuait au pipeline. Là, on lit de la mémoire, les 128 bits avec les N instructions dedans, et on les exécute en parallèle. Alors ça, c'est nouveau processeur, il y a l'Itanium là, de la HP Intel, de l'alliance HP Intel-Itanium, il y a le Transmeta Crusoe, qui est un nouveau processeur dont on a pas mal parlé, qui va servir à faire des portables parce qu'il consomme très peu, qui fonctionne suivant ce modèle. Donc ça, c'est la dernière technique à la mode pour exécuter le plus rapidement possible des instructions. Bon, je vais... Alors, on pourrait mettre plusieurs processeurs sur une même puce. Hein. Ça, c'est des idées qui reviennent périodiquement. Enfin, des années 60, on y pensait, on y pense encore. Mais je veux dire, ce sont des solutions d'avenir, mais qu'ils resteront. Donc des solutions qu'on voit réapparaître périodiquement, mais sans application concrète. Je ne connais pas de machine qui utilise des microprocesseurs, multiprocesseurs. Alors les problèmes en résolution, d'abord il y a la puissance dissipée. Vous savez que ces gros micros chauffent énormément, ça dissipe autour de 100 watts, 20 watts, 30 watts. Et il va falloir que ça diminue, et là on sait comment faire. Et donc je pense que la prochaine génération de micros va consommer beaucoup moins. Et puis la limite quantique dont je vous ai parlé, je pense qu'on va la franchir aussi. Ça risque de continuer. On arrive à 50 minutes. Je pense que ça va continuer. Et donc, le rythme d'évolution actuel va encore continuer pendant un certain temps. Par contre, il y a des questions ouvertes. Combien de temps encore ça va continuer? Parce que je dis que ça va continuer pendant un certain temps, mais encore combien de temps? Parce que si ça continue comme ça, à ce rythme effréné, imaginez ce que ça va donner dans 50 ans. C'est complètement fou. Vers quel type d'informatique on s'oriente? Je pense qu'on s'oriente vers une informatique qui aura de moins en moins le look d'informatique. Déjà, parmi les informaticiens actuels, les programmeurs se comptent vraiment comme une proportion de plus en plus réduite. La plupart des gens utilisent des machines et ne les programment pas. Et bientôt, ils utiliseront des machines sans avoir l'impression d'utiliser des machines informatiques. Et puis, est-ce que ça va transformer la société dans laquelle on est? Ça, je crois que c'est une question très importante. Voilà. Miné, 51.
Oui, bonsoir. Une question d'ordre mathématique et biologique. D'abord, pour la question mathématique, vous avez dit que pour l'évolution, c'est partagé par moitié pour les circuits. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi inclure, c'est un peu technique, la transformation de Fourier rapide qui permet de faire justement la reconnaissance vocale ou autre, la reconnaissance d'image? Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour les ordinateurs neuronaux sur le plan biologique?
Bon. Alors, premièrement, la FFT. La FFT ne pose aucun problème particulier, la transformation de Fourier rapide dont vous parlez, ne pose aucun problème particulier. Si on en a besoin, on la mettra dans un ordinateur. Ça ne pose aucun problème particulier de la mettre. Le jour où quelqu'un inventera un jeu qui a besoin de la FFT, je peux vous dire que la FFT sera rapidement dans les ordinateurs. Pour l'instant, les jeux n'ayant pas besoin de FFT, si vous avez besoin d'une FFT, vous la programmez. C'est à peu près la réponse. Il faut bien voir que les ordinateurs ne sont pas faits pour des applications intelligentes, ils sont faits pour des jeux. Ça, je crois que c'est important. Maintenant, les ordinateurs neuronaux, le problème du neuronal est un autre problème que l'informatique. Ça n'est pas les machines neuronales ne sont pas des machines informatiques. C'est un domaine très intéressant, très pertinent, mais c'est un autre sujet. Moi, au début, on m'a demandé de parler on m'avait proposé de von Neumann aux neurones. J'ai dit non, je reste dans le domaine de l'informatique parce que c'est un autre sujet. Okay. Donc, je suggère à l'UTLS de faire une séance sur le neuronal, ça le mérite. Voilà.
Bonsoir. Vous avez dit que ce sont les jeux qui ont fait progresser l'informatique.
Actuellement, qui font progresser.
Oui, oui. Et qu'en est-il de l'Internet?
Ah. Alors, l'Internet, c'est quelque chose de très important, mais qui ne demande pas. Alors, ça demande des puissances de calcul, en particulier d'affichage pour afficher des beaux dessins. Mais, si vous voulez, par rapport à la puissance de calcul qui est demandée pour les jeux, c'est vraiment très peu de choses. C'est vraiment très peu de choses. Quand vous vous connectez à Internet, vous attendez surtout Internet. Alors, je veux dire, si on veut développer Internet, il faut faire des tractopelles pour faire des tranchées, pour passer des câbles. Ça me paraît plus important. Parce que le problème d'Internet, c'est de tirer des fils ou de passer dans le faisceau hertzien, enfin de passer de manière hertzienne, mais c'est de transmettre l'information. Les ordinateurs attendent Internet. Donc, Internet, c'est très intéressant, mais c'est pas ça qui freine les ordinateurs. C'est ça qui freine les ordinateurs, c'est pas ça qui les pousse à évoluer. Enfin, si ce n'est d'avoir une carte de réseau, quoi. Enfin, c'est pas...
Oui, j'aimerais savoir si l'utilisation du mot intelligence est un abus de langage, disons. Et qu'est-ce que... Comment... Vous n'avez pas prononcé le mot auto-organisation. Non. Or, très souvent, quand on parle d'accroissement de la complexité, on dit oui, mais ces machines, entre guillemets, intelligentes, ont déjà commencé à s'auto-organiser, vont s'organiser de plus en plus, et la vraie intelligence, ce sera cela. Alors j'aimerais vous entendre à ce
Alors,
sujet.
Alors, l'informatique actuelle n'est pas encore dans cette voie. Hein. Elle n'est pas encore à faire de l'auto-organisation. Hein. Je pense que ça viendra, hein, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que, si vous voulez, on ne sait pas faire évoluer, auto-évoluer des programmes eux-mêmes. Hein. Ça ne se produit pas encore dans ce domaine-là. Maintenant, effectivement, le terme intelligence est un abus de langage, c'est vrai. Tout dépend de la définition qu'on donne à intelligence. Ma définition personnelle, c'est d'avoir des solutions pertinentes aux problèmes qui nous sont posés. Alors, on peut toujours admettre que quand certains programmes d'ordinateur personnel vous font des fois des suggestions pertinentes, pourquoi pas, hein ? Tout dépend de la technique qu'on met derrière. Là, si vous voulez, on est plus dans une réflexion au niveau technique. Hein. Ce que vous dites là, c'est l'intelligence artificielle qui, à mon avis, ne manquera pas d'arriver, surtout sur les ordinateurs personnels. C'est une voie obligée et l'intelligence artificielle va arriver sur les ordinateurs personnels à grande dose, mais sous forme d'une technologie et non pas comme elle était avant, sous une forme d'intelligence artificielle en tant qu'intelligence artificielle officielle. C'est-à-dire ça viendra sous la table. Ça viendra dans votre traitement de texte, ça viendra dans la façon de, à la limite, le gestionnaire de fichiers qui gérera les fichiers avec des algorithmes d'intelligence artificielle sans vous le dire.
Quand on regarde les contenus, aujourd'hui, on voit quatre moteurs, et non pas un moteur comme vous, les jeux. On voit les jeux, on a vu arriver la guerre aussi comme moteur important, mais vous avez dit au début de votre conférence la guerre, mais vous en avez parlé très peu. Ouais. On voit deux moteurs dans les contenus aujourd'hui, il ne faut pas se les cacher aussi. Autre les jeux, c'est le sexe et les religions, qui sont des moteurs de contenu assez importants. Enfin, je veux dire, on voit, même dans quelques affaires récentes de sites Internet, ce genre de choses. Est-ce que pour vous, ces deux autres éléments, non. Et c'est une question non. Un peu provocatrice...
Ça n'a pas d'influence sur la structure des machines.
La guerre, oui, quand même.
Ça la n'a guerre, pas, oui. Ce que je pense, si vous voulez, la connexion à Internet, les machines actuelles qu'on développe, mettons, pour les jeux, sont surpuissantes pour utiliser Internet. Internet est freiné par son débit de communication. Moi, il m'arrive fréquemment de me connecter à Internet et de ne pas pouvoir l'utiliser parce que ça ne marche pas, quoi, ça ne vient pas. Hein. Le réseau est saturé. C'est quand même assez fréquent.
Oui.
Voilà.
Pardon, monsieur. Nous assistons actuellement à une course à la vitesse des microprocesseurs. Et si on regarde à de près les microprocesseurs que nous avons actuellement sur le marché, la majorité utilise encore, je dirais, plutôt des CISC plutôt que des RISC. Okay. Et cela signifie qu'il y a eu un gaspillage assez énorme parce que pour exécuter ces instructions, ce ne sont pas du tout l'exécution efficace. Et de l'autre côté, cette augmentation de vitesse est pratiquement absorbée totalement par les operating systems, tels que Windows. Qu'est-ce que vous pensez dans le futur? Quelle est l'évolution possible? Parce que les risques aujourd'hui, je dirais plutôt des crisps plutôt que des risques. J'aurais voulu avoir votre.
Écoutez, si vous regardez sur la courbe ici, vous voyez. Ça, c'est un risque, ça, c'est un CISC. Ça, c'est un risque, ça, c'est un CISC. Ils ne sont pas si loin que ça, les uns des autres. Hein. D'abord, quand vous parlez de gâchis, je ne vous suis pas. Je pense que je suis très admiratif des ingénieurs chez Intel qui ont réussi, avec des jeux d'instructions aussi compliqués que les jeux d'instructions du PC, hein, du 86, qui est un CISC système, hein, c'est une machine système en plus, hein, arriver à obtenir ces performances. Hein, ils tiennent quand même la pige, ils tournent au gigahertz. Hein, ces engins, si vous voulez, sont extrêmement bien conçus et il faut voir comment ils marchent. C'est-à-dire que l'idée, c'est que je prends les instructions CISC, Je les casse tout de suite en instruction RISC et je les exécute de manière désynchronisée. Hein, c'est-à-dire soit en pipeline avec des techniques de super pipeline, là, comme j'ai parlé, soit en vlib, soit en désynchronisé. Hein. Le transméta les exécute en vlib, pareil. Donc on en arrive un petit peu à ce que l'instruction qui était à l'origine, ben, finalement, que ce soit CISC ou RISC, ça ne compte plus tellement, parce que ce qu'on regarde, c'est on a la maîtrise suffisante des techniques à mettre derrière pour y aller. Donc ce n'est pas un gâchis de silicium. Vous savez, si on gâchait du silicium à faire des Pentium, Intel aurait vite compris et aurait fait autre chose. Hein. C'est quand même utilisé. Hein. Vous savez, il y a des aspects un peu passionnels dans l'architecture des ordinateurs, dans l'informatique, dans tout ça. Il ne faut pas tomber dedans non plus. Hein, et je peux vous dire que les machines CISC système qu'on trouve actuellement sont des machines tout à fait respectables. Hein, tout à fait respectables. Hein. Quand vous regardez comment fonctionne, j'aimerais bien savoir comment fonctionne le Pentium 4 qui vient d'être annoncé. Ils ont encore tiré un cran de plus, hein, et c'est vraiment des gens, ils sont vraiment capables de faire des choses merveilleuses. Donc, dire faut pas pleurer en disant qu'on fait des bêtises. Hein. Les gens qui font ça font pas. Ensuite, vous dites les operating systems. Je veux bien. Hein. Y a eu un certain nombre de puissances qui a été perdue dans les operating systems. C'est pas tout à fait vrai. Quand vous faites tourner un jeu hein, sous Windows, puisque vous avez pris l'exemple, le jeu il sait récupérer la puissance de Windows. Bon, de temps en temps, il se fait interrompre. Hein. Pour des petits problèmes, mais il sait quand même récupérer la puissance. Si vous programmez intelligemment sous ces systèmes d'exploitation, vous savez récupérer la puissance. Hein, parce que le Windows n'affiche pas pendant ce temps-là, donc vous pouvez récupérer la puissance. Tout dépend comment vous programmez, tout dépend comment vous exploitez ces systèmes, et ainsi de suite. La situation n'est pas si catastrophique que vous la décrivez.
Dans le passé, avec la technologie TTL, on avait calculé la base optimale qui était 2,7. Et ainsi, on a trouvé des ordinateurs à base 3 en Russie et dans les pays nordiques. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, des ordinateurs dits multivalués, la technologie multivalée, demande une précision technologique qui était incompatible avec les circuits intégrés. Les premiers circuits intégrés, si vous voulez, la circuiterie, l'électronique à l'intérieur, devait être conçue pour être capable de fonctionner avec de très grandes variations des paramètres technologiques. Et ce que vous dites, c'est-à-dire le multivalué, nécessitait une maîtrise des paramètres technologiques très très fine. Et donc ça a été très peu utilisé. Alors, il y a eu des tentatives pour utiliser ça, mais en fait, on payait le fait de reconnaître les différents niveaux par une perte de vitesse. Hein. Alors, on perdait de la vitesse, on perdait de la complexité parce qu'il fallait beaucoup plus d'électronique pour le retrouver. Finalement, on ne s'y retrouvait pas. Hein. Et donc, on est revenu à de la bonne électronique binaire. Ça a été étudié intensivement, ça, dans les années 80, je m'en souviens. Non, je ne pense pas. Je pense pas. Je pense qu'actuellement, si vous voulez, on a suffisamment de réserves, de nombre de transistors pour faire plutôt du binaire performant. Si vous voulez, il y a eu un tas d'idées qui ont été utilisées. Ça, c'est un peu comme les moteurs à piston par rapport à d'autres moteurs. Les autres solutions ont quelquefois des avantages, mais quand on regarde de près, on trouve aussi des inconvénients. Finalement, avec les solutions actuelles, vous savez, on a des solutions qui sont très, très robustes. Je ne crois pas qu'on reviendra au multivalué. Sauf peut-être dans des mémoires. C'est peut-être une solution pour faire des mémoires. Mais encore, faut-il arriver à maintenir l'information valuée comme ça pendant un certain temps, ce n'est pas évident.
Et ça coûtait très cher de faire cette technologie-là. Et aujourd'hui, grâce à l'intégration, on pourra...
Oui, mais les transistors, on n'en a jamais assez. Oui. Quand on vous donne, quand le technologue dit « Je suis capable de vous faire 10 millions de transistors », le concepteur dit « Dis donc, tu ne pourrais pas m'en donner 12 hein. ». C'est comme ça que ça se passe. Ah, oui. Ah non, franchement. Hein. Vous savez, ces micros, ils tirent pour arriver à les rentrer dedans. C'est pour ça que c'est en grande partie dessiné à la main pour arriver à rentrer, hein, pour arriver à en mettre plus.
Ah ouais, d'accord. Bien, voilà. Merci.
Oui.
Oui, moi je voulais faire écho à monsieur pour expliquer que le problème en fait des machines actuelles, c'est qu'elles sont soi-disant très performantes. Mais quiconque possède un PC voit que ça plante très fréquemment.
Oui, je vois. Écoutez, monsieur, il y a un côté religieux derrière ça. Vous êtes peut-être anti-PC, comme un certain nombre de gens. Ça existe. Moi, je peux vous dire que j'en ai un. Quand j'en ai même plusieurs, j'en ai même construit 3 ou 4 déjà. Hein. Quand vous l'avez bien installé, bien monté, ça ne se plante pas plus qu'autre chose. Hein. Et j'ai vu de nombreux plantages de Linux, j'ai vu des plantages de macOS et j'ai vu des plantages de Windows. Il faut voir la complexité de ces systèmes. Ces systèmes sont incomparablement plus complexes que les systèmes qu'il y avait avant dans les années 70. Et c'est normal qu'un système très complexe se plante de temps en temps. Mais je peux vous dire que s'ils sont bien utilisés et bien configurés, c'est pas évident de bien les configurer, ils se plantent pas plus que d'autres. Et ça, c'est une histoire qui est envoyée par un... Je profite du fait que j'ai la parole pour dénoncer le fait qu'un certain nombre de gens, pour des raisons pratiquement idéologiques, raconte des bêtises sur les plantages de systèmes. Hein. Et c'est parce qu'en fait, on peut leur dire, c'est qu'ils ont mal configuré leur système. Hein. Parce qu'un système bien configuré, je peux vous dire que Windows est aussi bon que Linux et aussi bon que macOS. Hein. Ok. Ne partons pas dans cette direction. Je me sentirais énervé.
Oui. Bon sang, monsieur. Bon.
Voilà.
Vous nous avez dit qu'on n'aurait plus besoin un jour de programmateur. Moi, je me souviens du fait aussi que...
Non, je n'ai pas dit ça.
Non. Ah bon?
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait de moins en moins de programmeurs proportionnellement au nombre d'utilisateurs des machines. Si on revient 30 ans en arrière, tout informaticien programmait. Maintenant, combien de gens utilisent des ordinateurs sans les programmer? C'est ça que j'ai voulu dire.
Oui,
il y a plus de programmeurs qu'il y a 30 ans.
Oui, parce que je m'inquiétais sur le fait de par quoi et par qui on allait...
Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. C'est que il y a encore, évidemment, des programmeurs. Il y en a même beaucoup plus qu'il y a 30 ans. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup plus d'utilisateurs. C'est ça que je veux dire. C'est que maintenant, on peut utiliser un ordinateur sans être programmeur.
Je veux une dernière chose. Je veux faire quand même une réflexion sur le fait que Kasparov a été soi-disant battu par l'ordinateur. Oui. En jouant aux échecs. Moi, je vous rappellerai une chose, c'est que pendant toutes les nuits, l'ordinateur était reprogrammé pour battre l'homme. L'homme, il n'a pas été programmé pour battre l'ordinateur. Il a fallu qu'il se débrouille.
C'est possible.
Oui.
Moi, je voulais faire une remarque peut-être en 3 questions. Alors, la première, c'est que dans la lutte contre la montre et pour une vitesse de plus en plus grande, moi, il y avait une limite que je croyais exister et qui me rassurait. C'était la limite quantique, mais apparemment, vous dites qu'on va la franchir. Donc, je vous demanderai comment. Alors, une deuxième remarque qui n'est pas innocente, c'est que vous dites que l'informatique s'est développée grâce au jeu. Alors, je voulais savoir si on peut jouer à la poupée avec l'informatique. Et la troisième question, c'est celle qui est la dernière phrase de votre conférence, qui est vers quel type de société on va. Alors moi, je voulais faire une remarque, c'est que quand on fait de la biologie et qu'on va vers le clonage, il y a des comités d'éthique qui se réunissent et ça fait couler beaucoup de d'encre et puis ça fait penser. Et moi, je pense que l'informatique a modifié profondément la société. Et est-ce qu'il y a des équivalents de comités d'éthique ou est-ce qu'il y a des cahiers de charges qui freineraient un peu les choses pour que la société y trouve son compte?
Voilà. Ben, je vous suggère de faire un comité d'éthique pour l'informatique. Maintenant, en ce qui concerne jouer à la poupée, je peux vous signaler que j'ai regardé cet après-midi sur un site internet la description technique d'une poupée anglo-saxonne qui s'appelle Furby, F-U-R-B-Y, hein, et qui contient à l'intérieur deux microprocesseurs. Hein. Cette poupée répond, cligne des yeux, raconte un tas de choses. Donc, vous pouvez, à l'aide de la poupée Furby, jouer à la poupée avec deux microprocesseurs qu'elle a cachés dans le ventre. Hein. Donc, vous voyez, l'informatique cachée va vous permettre de jouer à la poupée et d'une manière plus efficace. Hein. Et puis, maintenant... Oui, c'est... Bon. Allez voir la poupée Furby, www.furby.com, hein, et on vous explique même comment la démonter, vous voyez, et comment la disséquer, donc ça rejoint l'aspect biologique, hein, comment la disséquer pour lui changer de peau. C'est-à-dire, la poupée Furby se présente d'une certaine manière, on vous explique comment retirer la peau de la poupée Furby pour remettre une autre peau, pour faire une autre poupée qui a la même mécanique à l'intérieur. Voilà. Et donc, maintenant, en ce qui concerne les aspects quantiques, je ne suis pas physicien, mais j'ai vu en me baladant sur le réseau et en discutant avec des gens dans des laboratoires, des mémoires dites un électron, bah, c'est-à-dire qui, dans leur principe, pourraient fonctionner avec un électron unique par point mémoire, et des éléments logiques qui utiliserait aussi des puits quantiques, c'est-à-dire qui seraient réalisés avec des espèces de petites cavités de dimension quantique que l'on ferait résonner suivant un mode ou suivant l'autre, et qui, de cette manière, laisserait ou non passer un courant électrique. Hein, un courant électrique constitué presque électron par électron. Bon, je ne suis pas compétent dans ces domaines. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a déjà des gens qui s'intéresse au problème. C'est-à-dire, ce que je pense qui va arriver, c'est-à-dire, je pense que l'on va voir une certaine stagnation de cette courbe pendant un certain temps, et puis, dès que les dimensions, pendant ce temps-là, la technique va évoluer, en particulier la façon de faire des petits dessins, c'est-à-dire ce qu'on appelle la lithographie, c'est-à-dire comment faire les dessins, le dessin du circuit intégré, et quand ça va s'affiner suffisamment pour être capable de manipuler des dimensions quantiques, et bien la courbe va repartir brutalement. C'est déjà arrivé, ce genre de truc, hein, où il y a eu une stagnation pendant quelques années, puis pouf, c'est reparti. Et à partir du moment où on arrivera à manipuler des dimensions quantiques. Il y a aussi des gens qui parlent d'utiliser la chimie, hein, c'est-à-dire des liaisons chimiques. Or, vous savez que les liaisons chimiques se font et se défont à la picoseconde. C'est très, très rapide, les opérations, la création ou la destruction d'une liaison chimique se fait à la picoseconde. Donc, si on arrive à maîtriser ce genre de choses, on aura des dispositifs tout petits qui sont capables de fonctionner à des très grandes vitesses. Donc, vous voyez, il existe des voies pour continuer. Et la pression économique est telle que si l'un ne trouve pas, l'autre trouve, et il y a plusieurs laboratoires en compétition, et je peux vous dire que toutes les voies sont explorées pour aller de plus en plus vite, hein, pour essayer d'aller de plus en plus vite. Donc il y a une pression, hein, une pression économique énorme. Toujours pareil pour faire les jeux.
Oui, une question là. Non, s'il vous plaît.
Oui, bonsoir. J'aurais voulu savoir par rapport à, je dirais, aux effets quantiques. Oui. Parce que j'avais entendu parler que, bon, l'informatique étant basée sur, je dirais, sur le 0 et le 1, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, je dirais, une informatique basée sur plusieurs états?
C'est-à-dire. C'est l'informatique dite quantique. Parce que quand on parle de quantique, j'attendais un peu cette question, quand on parle de quantique, on voit les deux aspects. L'aspect que j'ai évoqué, c'est-à-dire des dispositifs qui exploitent la mécanique quantique pour faire à peu près la même chose, au moins d'une manière extérieure, fonctionnellement. Et il y a l'informatique quantique que vous avez évoquée, c'est-à-dire la capacité de faire plusieurs calculs simultanément en exploitant les superpositions d'états du monde quantique. Alors jusqu'à maintenant, je ne sais pas si on a réussi à manipuler un bit comme ça. Donc attendons qu'ils en manipulent plusieurs, parce qu'en général, dans un ordinateur, il y a beaucoup de bits. Hein. Alors, il ne suffit pas de savoir en manipuler un. Hein, et au centre d'une énorme machine qui est dans l'hélium liquide. Je suis encore un peu sceptique vis-à-vis de cette voie qui est relativement qui est très alléchante.
Vous ne considérez pas que c'est plutôt un mythe ?
Je pense que c'est une voie de recherche qui n'a pas encore débouché. Alors, est-ce qu'elle débouchera un jour ? Je ne sais pas. Mais pour qu'elle débouche, il faudrait qu'il soit déjà capable de faire des dispositifs avec quelques milliers d'éléments, non pas un. Voilà.
Dernière question.
Oui. Est-ce que, selon vous, cette course effrénée à la puissance débouche sur une réelle utilité sociale ? Je formule ma question autrement. Est-ce que on n'est pas en train de fabriquer des machines à rien faire ? Et je reste poli.
Non. Alors, pour la dernière question, je ne suis pas de votre avis. Je pense que, si vous voulez, ce qu'on est en train de faire avec ces machines qui vont de plus en plus rapidement, c'est d'essayer d'atteindre des fonctionnements ou des comportements parabiologiques, je veux dire. Et lorsque... Je prends un exemple. Vous voyez, quand vous êtes dans votre voiture, vous conduisez votre voiture, si vous êtes à 130 km/h sur une autoroute, parce que personne ne va plus de 130 km/h sur les autoroutes, et vous donnez un coup de volant, vous vous retrouvez dans le bas-côté. Si vous êtes maintenant à cheval, pas à 130 km/h, parce que ces pauvres bêtes ne vont pas à 130 km/h, mais si vous êtes à cheval et que vous marchez auprès d'une pente ou d'un précipice, si vous tirez le renne du côté du précipice, le cheval va regarder, va s'arrêter et ne va pas tomber dedans. Donc vous voyez, la monture, dans un cas, est bête, si vous tournez le volant, pouf, ça va dans le décor, dans l'autre cas, vous dites non, moi, je n'y vais pas. Eh bien, je pense que l'intelligence qu'on va pouvoir mettre, grâce à toute cette puissance de calcul, et il en faut, je peux vous dire, fera que les voitures se conduiront comme ça. C'est-à-dire, si vous voulez faire une bêtise, la voiture, elle ne fera pas. On a déjà commencé à vouloir faire ça sur des avions. Le pilotage des Airbus via l'informatique, théoriquement, si on ne le déconnecte pas, si vous tirez sur le manche, l'avion, il dira non, je ne décroche pas, je reste comme ça, et puis bon, ok. Donc, si vous voulez, on va rendre intelligent, avec tous les guillemets dont on a parlé, les objets de notre environnement, et on va transformer leur comportement de simple mécanique en quelque chose qui ressemble un peu d'une certaine manière à un comportement animal. Je prenais l'exemple du cheval. Et pour faire ça, je peux vous garantir qu'il faut du calcul. C'est-à-dire que si on regarde la société a dans le temps utilisé des animaux, même dans le temps utilisé des êtres humains, des esclaves, et puis on est passé à une société mécanique qui utilisait des choses bêtes, et bien maintenant on va passer à une société mécanique qui va utiliser des choses intelligentes. Et pour arriver à mettre cette intelligence avec les guillemets dont on parlait, il faut beaucoup de puissance de calcul. Regardez ce qu'il faut pour que vous puissiez dicter convenablement votre lettre à un ordinateur. On est loin, on commence à y arriver, mais on est loin que, je vous dis, écrivez-lui une lettre pour lui répondre. Vous recevez un message et puis vous dites à votre machine, répondez-lui que je ne suis pas d'accord. Il faut pas mal de MIPS pour arriver à faire ça. Et c'est ce genre de choses vers quoi on va. C'est-à-dire de rapprocher la machine du monde de l'homme ou du monde animal qu'utilisait l'homme. Et là, je vous dis qu'il faut de la puissance de calcul. Donc on est loin de l'utiliser, de l'avoir utilisé convenablement, et on a encore besoin de beaucoup de puissance de calcul pour arriver à ça. Vous savez, pour pousser convenablement un balai, il faut 10 milliards de neurones.
Merci.